VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 18h, N'Djamena au Tchad. Bonsoir, bienvenue. On commence par la République démocratique du Congo. Les députés ont crié à la fraude et renvoyé au gouvernement un projet de loi sur la répartition des sièges. Eddie Sango.
Les membres de l'Assemblée nationale ont refusé d'examiner dans les détails les projets de loi et ont dénoncé les intentions de fraude de la part du gouvernement. Ils ont relevé des incohérences entre les chiffres et la réalité sur le terrain. Les députés ont entre autres relevé plusieurs groupements et secteurs inexistants ou faisant l'objet des contentieux majeurs que le gouvernement reprend dans le projet de loi. Lesquels projets de loi reprend en effet des secteurs qui n'ont ni groupement ni village et des groupements qui n'avaient aucun électeur en 2011, mais auxquels le gouvernement attribue des sièges. Pour les élus, les projets sont en déphasage avec les recensements électoraux de 2004 et l'actualisation faite en 2011. La défense de ces projets de loi samedi par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Évariste Boshab, n'a pas suffi pour convaincre les députés. Les projets ont été déclarés irrécevables et devraient être améliorés avant les élections provinciales, municipales, urbaines et locales qui devront avoir lieu le 25 octobre.
De nouveau sur le double attentat suicide qui a fait 24 morts hier à N'Djamena, la capitale du Tchad. Le parquet annonce que plusieurs suspects ont été interpellés, mais les autorités estiment que ces attaques ont nécessité une préparation minutieuse. Continue de chercher les commanditaires et les complices. La capitale tchadienne N'Djamena était donc quadrillé par la police et l'armée ce mardi. Jacques Aristide.
Un des blessés des attaques contre le commissariat central et l'école de police est décédé hier, portant le bilan à 24 morts. Selon le gouvernement tchadien, 4 terroristes ont également été tués. Policiers et soldats étaient déployés en masse ce matin dans la capitale. D'après l'AFP, ils fouillaient systématiquement les véhicules et leurs occupants. Des checkpoints interdisaient également la zone du commissariat central et la voie passant devant le palais présidentiel. Dans le cadre de ces contrôles de sécurité, N'Djamena avait annoncé dès hier que la circulation des véhicules à vitres fumées est formellement interdite. Le gouvernement a également appelé la population, je cite, à garder tout son calme et sa sérénité légendaire, car la situation est entièrement sous contrôle. Ces attaques qui visent à créer une psychose ne sauraient émousser la détermination et l'engagement du Tchad à combattre le terrorisme. Fin de citation. Les autorités ont rapidement accusé les islamistes nigérians de Boko Haram d'être les auteurs de ce double attentat. Depuis Alger, où il se trouvait en visite officielle, le président français François Hollande a déclaré que Boko Haram devra rendre compte de cette nouvelle horreur humaine.
Lutte contre Boko Haram, les États-Unis vont contribuer à hauteur de 5 millions de dollars à la force régionale de lutte composée du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Bénin et du Cameroun par la voix de la secrétaire adjointe du Bureau des Affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield. Les États-Unis ont fait part de leur inquiétude face à la menace régionale que constituait le groupe islamiste nigérien Boko Haram. Des soldats somaliens ont été tués ce mardi près de Mogadiscio dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule. Selon un responsable sécurité et des témoins, le responsable sécurité en question n'a pu préciser le bilan à ce stade, mais un témoin, Ibrahim Ismaël, rapporte l'AFP, a affirmé avoir vu 3 morts et 3 autres soldats grièvement blessés. Le chef de la filiale d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Nasih al-Weshi, a été tué par une frappe de drone américain la semaine dernière. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Al-Qaïda. L'attaque a eu lieu vendredi dernier dans le port de Mukalla au Yémen et des officiels américains ont fait savoir hier que Washington cherche à confirmer le décès sans préciser si la CIA était à l'origine de la frappe. Al-Weshi était l'adjoint du leader d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Il dirigeait depuis 2009 Al-Qaïda dans la péninsule arabique, considérée par les États-Unis comme la filiale la plus dangereuse du groupe terroriste. Les rebelles houthis qui contrôlent une grande partie du Yémen ont annoncé qu'ils refusaient tout dialogue avec le gouvernement en exil en Arabie Saoudite à leur arrivée aujourd'hui à Genève. Ce n'est pas là le seul obstacle qui se dresse devant les médiateurs onusiens, comme nous l'explique Salwa Jafari.
Le message est clair, les Houthis ne veulent ni de Hadi, ni du gouvernement en exil autour de la table des négociations. Ils réclament néanmoins un face-à-face avec Riyad, à la tête de la coalition arabe dont les frappes visent quotidiennement leur position. Et pour compliquer les choses, le gouvernement yéménite exilé refuse, lui, de parlementer, sauf pour discuter d'une résolution du Conseil de sécurité qui ordonnerait le retrait des Houthis de tout le territoire. Les positions des deux parties sont tellement éloignées que les Nations Unies ont opté pour des consultations séparées avec chaque délégation dans un premier temps. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, le Mauritanien Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, a déjà rencontré hier la délégation du gouvernement en exil et devrait se réunir cet après-midi avec le représentant des rebelles. Les pourparlers sous l'égide de l'ONU visent à parvenir sinon à un accord, du moins à une trêve dans les combats qui ont fait depuis mai plus de 2600 morts.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi va effectuer demain mercredi une visite d'une journée en Iran, et cela pour discuter de la lutte contre le groupe djihadiste État islamique, a annoncé aujourd'hui son bureau. Il doit notamment examiner avec le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, et d'autres dirigeants iraniens, les efforts de la communauté internationale visant à combattre les bandes terroristes, a précisé un communiqué publié sur le site du premier ministre irakien en allusion à l'État islamique. Les rebelles talibans afghans, eux, ont mis en garde aujourd'hui le chef de l'organisation État islamique contre toute tentative d'implantation dans leur pays après des accrochages dans l'est du pays entre leurs hommes et des combattants se réclamant de l'État islamique. Akhta Mohamed Mansour, le bras droit de l'insaisissable chef des rebelles afghans qui revendique la paternité de la résistance contre les forces occidentales et leurs alliés en Afghanistan, a écrit à cet effet une lettre directement adressée à l'Iranien, à l'Irakien Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Et actualité américaine, Jeb Bush est officiellement depuis hier candidat à l'investiture du Parti républicain pour la présidentielle de 2016 aux États-Unis. L'ancien gouverneur de Floride, fils et frère de deux anciens présidents américains, a annoncé sa candidature à Miami. Il dit que le pays est sur une mauvaise pente et il blâme et il accuse les démocrates pour la lente croissance de l'économie américaine. Jeb Bush a su pouvoir faire mieux et l'avoir déjà prouvé en tant que gouverneur.
VOA Afrique en direct de Washington.
On passe au sport. Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Les deux derniers représentants africains se préparent la nuit prochaine. Le Sénégal et le Mali ont rendez-vous avec leur destin, qualifiés en demi-finale du tournoi. Les Sénégalais défieront les Brésiliens à Christchurch, tandis que les Maliens vont affronter la Serbie le même jour à Auckland. C'est une première pour l'équipe du Sénégal, mais on se rappelle que le Mali avait fini troisième du mondial junior en 1999. Les Aiglons actuels rêvent désormais d'aller en finale. Écoute son Cheikh Fantamadi Diallo, il est le manager général du Stade malien et surtout ancien coach des moins de 20 ans maliens à la dernière Coupe du Monde en Colombie.
Ce n'est pas la première fois qu'on soit à ce niveau-là. La génération de Seydou Keita et Mamadou Diarra Djila ont été déjà en demi-finale de cette compétition en 99, je pense. Donc, on est habitué de la compétition. Mais cette année, vraiment, on a de très bons jeunes joueurs et puis ils ont fait une très bonne préparation. Donc, ça m'étonne, moi, personnellement, qu'ils soient à ce niveau-là. Il y a quand même de très bons joueurs là-dedans qui peuvent faire une carrière professionnelle. Je citerai, il y a Djadje Samaseku au milieu du terrain qui porte le numéro 8, je crois. Tous les attaquants qui sont très, très bons joueurs. Il y en a qui sont déjà dans les clubs professionnels européens en France, par exemple, à Lille. Et vraiment, je pense qu'il y a de très bons jeunes là-dedans. Il y a de très bons jeunes.
Qu'est-ce que vous pensez du prochain adversaire, la Serbie, pour les Maliens?
Bon, ça va être très, très difficile en demi-finale. Hein. C'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, ça va être très, très, très difficile.
Cheikh Fantamadi Diallo, le manager des aiglons du Mali, au micro donc de Nicolas Pineau. Et je le disais donc, dans les heures qui suivent, ce sera le destin pour le Mali et le Sénégal. Le Sénégalais défieront donc les Brésiliens à Christchurch, tandis que les Maliens vont affronter la Serbie à Auckland. Et puis, Coupe du Monde féminine au Canada, dernier match et dernière défaite des Ivoiriennes. Elles ont été battues par la Norvège sur le score de 3-1. Et le Nigeria et le Cameroun joueront leur qualification donc ce mardi. Le Nigeria affronte ce soir les États-Unis d'Amérique. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Jean-Roger Billon à ce microphone. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est seulement dans 20 minutes. Et ce sera Le Monde aujourd'hui avec Morgan Guiriec et Idrissa Seydoudia.
sur VOA Afrique.